que c'est une erreur d'affirmer que lorsqu'on est baptisé, on est obligatoirement sauvé. C'est une erreur fondamentale. À partir du moment où je donne ma vie au Seigneur, je dois, et je pèse mon mot, vivre une vie exemplaire dans le monde en tant qu'enfant de Dieu et surtout, comme le dit la Bible, être agréable à Dieu. Si je rentre dans l'église, celle-ci ou une autre, pour être comme dans un club, une association, nous avons tout faux. Nous rentrons dans une église telle que celle-ci, et il y en a d'autres en France et de par le monde, pour grandir dans la foi et être sauvé pour l'éternité, ce qui veut dire que la vie du chrétien n'est plus conforme avec le monde. Le chrétien ne peut pas avoir et agir avec l'esprit du monde. Le chrétien vit et marche avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est différent à l'Esprit du monde. Le monde nous amène à vivre dans l'impureté. L'Esprit de Dieu nous amène à vivre dans la pureté. Et pour gagner la pureté, le Seigneur nous a laissé un code, sa parole. Et je dois vivre ma vie bâtie sur la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, je ne peux plus faire ce que je faisais dans la vie du monde. Mais je dois faire ce que Dieu me demande pour obtenir la vie éternelle. Et si je désobéis à un de ses commandements, je désobéis à tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors ce matin, on va s'arrêter un peu sur cette pensée, à savoir que l'enfant de Dieu est amené à vivre toute la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Et tout chrétien digne de ce nom est soumis à l'action puissante du Saint-Esprit qui va l'amener à vivre une vie qui glorifie Dieu. Mais si je ne vis pas ainsi, et si je fais ce que je veux, tout en disant que je suis chrétien, je suis dans un mensonge. Le chrétien vit suivant la parole et non pas suivant ses pensées et ses idées. Ce n'est pas parce que je serai passé par les eaux du baptême. Si je ne vis pas la parole, je n'aurai pas pris un engagement et excusez ce que je vais dire, j'aurai pris un bain. Est-ce que nous sommes assez clairs là? Lorsque le chrétien s'engage par les eaux du baptême, il s'engage sur un chemin qui le conduit vers la vie éternelle et ce chemin s'appelle la sainteté. Donc je ne fais plus ce que je veux après être passé par les eaux du baptême. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Je vais lire deux versets avec vous, si vous le voulez bien, dans le psaume numéro 103. Car il ne faut pas croire que Dieu est un Dieu qui exerce un courroux. Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Mais il a, permettez-moi aussi ce mot, des exigences. Et ce mot exigence est traduit par la parole de Dieu par commandement, instruction, précepte. Et si je désobéis à un, je peux passer à côté de la vie éternelle. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il dit dans sa parole, révélée par le Saint-Esprit au travers des hommes de Dieu, il dira, si j'ai péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Par amour, par miséricorde, par bonté, il me pardonne, à condition que je me repente sincèrement, que je lui demande humblement pardon. Et que je prenne cette vérité profonde de vivre pour lui et rien que pour lui. Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais il ne faut pas user du pardon de Dieu. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est la fidélité et l'amour pour son nom et sa parole. Hors de ça, nous sommes à côté de la plaque. Alors qu'il écrit dans le psaume 103, verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dura jamais. » pour ceux qui, merci, pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas M. Asquith qui le dit, hein. C'est Dieu qui le dit, au travers de son serviteur, qu'il a écrit ici. Et il ajoute, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ce qui veut dire que vous, parents et grands-parents, vous êtes des exemples pour vos enfants et vos petits-enfants tout au long de la descendance qui vous sera accordée. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Crains Dieu et il exercera son amour à ton égard. Quand on dit crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est de faire sa volonté pour lui plaire. Et si je crains Dieu en disant je crains Dieu parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver, quelque part ça peut être juste et en même temps ça peut être faux parce que je le crains parce que j'ai peur. Je le crains parce que je l'aime. Parce que je veux qu'il me sauve. Et que dans cet désir qu'il me sauve, que je fais tout pour être sauvé. Et alors la crainte devient amour. Oui ? Non. Si je peux y prendre un exemple, je dirais que quand... Je pense que nous avons fait tous la même expérience quand nous étions enfants. Que nous désobéissions. Nous avions la crainte de la punition. Moi, je me rappelle avoir dit, dans une circonstance, « Pourvu que mon père ne la prenne pas !» Mais il a appris. Comment, je ne sais pas. Et quand je suis rentré, fatalement, j'ai eu ma récompense. Mais quand la récompense fut passée, cela fait mal sur le coup. Mais ça ne m'a pas empêché de l'aimer. Et je sais que ce qu'il a fait, même si peut-être par côté c'était un peu injuste, eh bien c'était nécessaire parce que c'était mon père. Vous m'avez saisi dans l'exemple ? Dieu nous aime. Et comme un père, dit-il, il châtie ce qu'il aime. Mais si je vis dans une crainte respectueuse, dans une crainte d'amour pour Dieu, mon père, je sais qu'en tout temps, je peux compter sur sa grâce pour aller plus loin, dans la foi, dans la vie avec lui, jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-il écrit au verset 18, « Mais pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin d'en faire fi. » Je me trompe. Vous savez ce que ça veut dire, faire fi? C'est-à-dire passer par-dessus. Pour être un peu terre à terre, c'est-à-dire je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je lis, mais je ne fais pas. J'écoute, mais je n'obéis pas. Je fais ce que je veux. Et alors, je prends l'apparence d'un bon chrétien. Je suis le bon chrétien le dimanche matin, mais dans la semaine, je fais ce que je veux. Une chose que la Bible enseigne, c'est que Dieu ne regarde pas aux apparences. Vous pouvez en mettre plein la vue à tout ce qui vous entoure, hein, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Je ne tromperai jamais Dieu, parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement ce que je suis intérieurement, comme il sait ce que vous êtes intérieurement. Rien ne lui est caché. N'allez pas dire « Personne ne me voit ». Si, Dieu te voit tous les jours, 24 heures sur 24. Et il sait ce que tu fais tous les jours, 24 heures sur 24. Et il y a quand même quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'il est écrit dans l'Apocalypse, des livres furent ouverts. Oui, vous connaissez ce texte ? Et les hommes furent jugés suivant ce qui était écrit sur les livres. Alors vous allez me dire, oui frère, c'est écrit, mais pour les chrétiens, passera à travers si tu es trouvé fidèle. Car ce sont les fidèles, ceux qui sont droits, ceux qui sont justes, qui hériteront de la vie éternelle. savez, Dieu ne déroge pas de ce qu'il a dit. Ça fait 6000 ans qu'il a parlé, Dieu. Et il a fait une démonstration, entre guillemets le mot démonstration, de sa parole et du bien qu'il voulait faire à l'humanité. Je vous ramène à la création. Dieu a créé le monde pour que l'homme y vive heureux. Vous le lirez, ça, dans le livre de la Genèse. Et puis, il plaça dans le jardin d'Éden un homme, Adam, que lui-même a créé. Et il souffla en lui une âme vivante, parce que le corps disparaîtra, mais l'âme vivra éternellement, soit dans le ciel, soit en enfer. Et là, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui veut dire que Dieu avertit toujours. Et Dieu n'a pas changé. Nous sommes en 2018 et il n'a pas changé. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est invariable. Depuis la création, la parole de Dieu est la même. Nous, on change. Les générations changent. Mais Dieu ne change pas. Et sa parole ne change pas. Et malheur à ceux qui veulent mettre la parole au niveau du jour d'aujourd'hui. Vous avez tout faux. Alors Adam était là, et puis Dieu, voyant qu'Adam était triste, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait une petite opération, il lui prend une côte, et il fait la femme, Ève. On ne va pas ensuite épiloguer sur les actions d'Adam, de Ève. Toujours est-il que Ève a mangé du fruit défendu, elle en a goûté, elle a fait goûter à son mari, et Dieu vient. Adam, où es-tu ? Puisque Dieu venait tous les soirs rendre visite à Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Et finalement, Adam dit, je suis là, mais je me cache. Tu te caches pourquoi ? Comme si Dieu ne le savait pas. Parce que j'ai mangé du fruit défendu. Alors, puisque tu as mangé du fruit défendu, tu vas aller hors du jardin d'Éden, de ce jardin des délices où je t'avais placé pour être heureux. Tu vas sortir et maintenant, tu vas travailler, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front et tu retourneras à la poussière. Vous connaissez ce texte ? Dieu n'a pas changé. Tu obéis, tu sauves ton âme et tu rentreras dans le jardin céleste. Tu désobéis, tu te moques de Dieu, tu fais fi de sa parole, tu vis comme tu veux et tu dis que tu es chrétien, tu passeras à côté. Parce que Dieu n'a pas changé. Et vous pouvez remonter dans les Écritures, que ce soit du temps de Dieu, parce que Dieu a parlé d'abord aux hommes, lui-même, après il a parlé par les prophètes, après il a parlé par Jésus-Christ, et aujourd'hui il nous parle encore au travers de la parole, par son esprit, et même au travers des dons spirituels, il nous parle. Mais sommes-nous devenus sourds à la voix de Dieu ? C'est ça l'important. Es-tu sourd ? Ou entends-tu ce que Dieu te dit ? Es-tu prêt à mettre en pratique la parole pour ton salut ? Et le salut, c'est quelque chose de personnel, pas quelque chose de collectif. Puissions-nous rentrer tous collectivement dans le ciel ? Mais soyons prêts pour rentrer dans le ciel. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Savez-vous ce que Jésus dit ? Mais je pense que oui. Dans Jean au chapitre 17 et verset 17, la prière de Jésus que nous devons connaître, parole vivante, il dit ceci, « Fais qu'il t'appartienne entièrement. » C'est Jésus qui dit ça. « Fais qu'il t'appartienne. » Qui ça ? Tous ceux qui croiront en mon nom, qu'il t'appartienne entièrement. Et puis dans sa prière, il dit « Rends-les saints. » Rends les saints. Ou encore, une autre traduction dira, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. Oh, si je veux rentrer dans le ciel, il faut que je vive dans la vérité divine. Dites pas tous amen, hein. Ah ouais, je sens que là, je suis à côté de la plaque. Non, je crois pas. Je parle avec mon cœur, mais surtout parce que Dieu parle. Dans le psaume 73, qui est un psaume d'Asaph, au verset 24, il dit « Tu me conduis par ton conseil, c'est-à-dire par ta parole, qui est la vérité. Tu me conduis par ton conseil, tu es celui qui me parle, c'est ce que veut dire Asaph. Tu me parles, je t'écoute et je suis ton conseil. » C'est ce que dit Asaph. Et écoutez bien la fin de ce verset. « Puis tu me recevras dans ta gloire. » Donc, vous avez bien saisi la pensée, là. Je marche suivant ta parole, j'écoute ton conseil, je le mets en pratique. Et je sais une chose, c'est que marchant fidèlement dans ta parole, qui est la vérité, la mettant en pratique dans ma vie, je sais que je rentrerai dans ta gloire. Alléluia. Il y a un homme de l'Ancien Testament aussi qui a dit à peu près la même chose. Et lui, il n'était pas dans des temps, on va dire, de facilité. Il était dans une épreuve immense, Job. Qui n'a jamais entendu parler de Job? Même les inconvertis parlent de Job quand ils sont dans l'épreuve. Pauvre Job. Alors, pauvre dans le sens pauvre, pauvre parce qu'il est également dans la souffrance et dans la dépression. Ça, c'est l'apparence. Mais regardez le cœur de Job. Il se tourne vers Dieu et lui dit, et devant ses amis qui sont là, « Je sais qu'un jour mes yeux verront mon Sauveur, mon Père, mon Rédempteur. Je le verrai face à face. » Quelle assurance! Quelle certitude! Et pourtant, il est dans l'épreuve. Il a été privé de tout. De sa famille, de ses biens. Dans l'épreuve, dans les souffrances physiques, souffrances morales. Et là, au milieu de ce livre de Job, on voit ce cri qui monte. « Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Dieu vivant !» Oui, pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu, malgré toutes ses difficultés. Ah ouais, il est resté fidèle à Dieu. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui te sont fidèles. Dans 1 Thessaloniciens, il dit au chapitre 4, versets 2 et 3, parole vivante, vous connaissez les règles et les préceptes que nous avons donnés de la part du Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend que de vous une vie sainte, consacrée à son service. Ça veut dire en premier lieu que vous vous teniez éloigné de toute immoralité, de tout ce qui est contraire à l'enseignement du Seigneur. Et là, il y a des textes dans le Nouveau Testament que vous pourrez lire qui sont cités par les apôtres conduits par le Saint-Esprit pour que nous ayons une conduite toute à la gloire de Dieu et rejeter de nos vies tout ce qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Mais si vous le permettez, je voudrais vous citer quand même quelques versets. Parce que là, même Jésus a parlé sur l'importance de l'observation. Mais notamment un jour, un jeune homme est venu vers lui et lui a dit « Bon maître, que dois-je faire de bon pour entrer dans la vie éternelle ?» Alors, que dois-je faire de bon? C'est que dans la pensée de cet homme, pour entrer dans la vie éternelle, il fallait faire de bonnes œuvres. Vous me suivez là? Mais je vous rappelle quand même qu'il est écrit, mais lui il ne le savait pas, mais Jésus va dire autre chose. Il ne le savait pas, mais le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Or, si j'ai la foi, je peux pratiquer les œuvres, parce que la foi sans les œuvres ne nous ouvre pas non plus les portes de la vie éternelle. Est-ce que c'est clair, ça? C'est clair, hein? Alors, que répond Jésus à cet homme? Matthieu 19, 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Ben, attends, je viens chercher une réponse pour vivre dans la bonté. Mais non, Jésus lui dira, un seul est bon. Et qui est bon? Qui est le seul qui est bon? Celui qui est rempli de bonté, c'est Dieu. Alors Jésus continue pour répondre à sa question. Si tu veux rentrer dans la vie, sous-entendu éternelle, observe les commandements. Observe les commandements. Observe la parole. Alors, je vais vous aider. Je vais vous aider. Allez, vous me permettez, non pas un petit jeu, mais je compte sur vous pour être sérieux. Je peux. Alors, je ne vais pas tout vous citer, parce que vous lirez vous-même le Nouveau Testament. Mais quelques versets comme ça qui sont venus, et ayez la bonté et la gentillesse en votre âme et conscience, quand vous entendrez le verset cité, de répondre intérieurement par oui ou par non. Oui, je respecte, ou non, je respecte pas. Je peux compter sur votre sérieux ? Oui, je sais qu'aujourd'hui je suis avec vous, mais je ne sais pas si demain j'y serai encore, parce que là je vous regarde. Mais... Savez-vous déjà que l'apôtre Jacques a dit dans le chapitre 5, verset 12, « Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. » On connaît ça, mais connaissez-vous la fin du verset ? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ce qui veut dire qu'en toute occasion, non pas ce matin, parce que les réponses, mais en toute occasion, le chrétien ne doit avoir qu'une seule parole, une parole vraie. Tu dis oui, c'est oui. Tu dis non, c'est non. Et tu n'ajoutes rien. Tu fais le oui ou tu fais le non. Mais tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Oui. Alors je continue un petit peu, hein, parce que là, il n'y avait pas à répondre ni oui ni non. Hein. Je parle, dit la parole de Dieu, tu parleras avec vérité à ton prochain. Donc un chrétien est vrai. Oui, il est vrai en tout temps, en toute situation, en toute circonstance. Un chrétien ne peut pas frauder. Un chrétien ne peut pas mentir. Et là, vous répondez ce que vous voulez. Merci. Maintenant, regardez, Matthieu 20, là, par contre, vous pouvez répondre oui ou non. Entre vous, hein. Ne vous tournez pas vers le frère ou la sœur devant ou derrière. Oui, oui, je fais. Parce que, de toute manière, vous ne direz pas non, non, je fais. Alors, Matthieu 22, 37, 39, c'est une parole de Jésus. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous l'aimons tous. Là, vous pouvez dire amen. Mais voilà la suite. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le plus grand commandement, le plus important. Alléluia! Ce qui veut dire, pour être agréable à Dieu, il faut que je l'aime pleinement, entièrement. Alléluia! Parce que je peux dire « je t'aime au Seigneur » et faire ce que je veux. Je peux dire dans l'assemblée « je t'aime Seigneur » Ah ben les frères ils vont dire « Alléluia !» Les sœurs. Mais après le comportement c'est différent. Parce que si j'aime le Seigneur, la première des choses à faire, de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma passe et toute ma force, c'est de faire ce qu'il nous commande ou qu'il nous enseigne. Non. Alléluia. Mais je continue la parole de Jésus parce que le Seigneur Jésus, il est clair, lui. Hein. Mais il y en a un second. Tiens, non. Oui. Et il ajoute qui lui est semblable. C'est-à-dire qui a autant d'importance que le premier. Et quel est-il? Et vous le connaissez tous, du moins je suppose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais vous savez, j'aime tout le monde, je ne ferai même pas de mal à une mouche. Ça, je ne peux pas vous le dire, personnellement. Parce que quand je vois une mouche qui m'embête, il ne faut pas mépriser les mouches. Mais si elles nous embêtent, il faut utiliser la force. Mais parfois, elles sont utiles. Alors, juste pour décontracter un peu tout le monde, une petite expérience vécue par un frère qui est devenu prédicateur. Un jour, toute sa famille était réunie parce que c'était un dimanche de baptême. Et cet homme-là, permettez-moi que je ne cite pas son nom, s'était réuni pour le service de baptême parce qu'un membre de la famille, je crois que c'est sa fille, qui se baptisait ce jour-là. Alors, au moment du repas, alors qu'à ce temps-là, cet homme était inconverti, obligatoirement, c'est arrivé sur la table le sujet « Viens avec nous !» Alors, ils l'ont tellement, entre guillemets, embêté à table, qu'à la fin, il a dit « Écoutez, je vais aller avec vous pour ne plus vous entendre. » Voilà. Et ils sont partis, ils sont arrivés à la réunion. Alors, ah oui, et il avait ajouté « Je viens, mais je mets mes doigts dans les oreilles pour rien entendre non plus. » C'est clair. Il vient, mais c'est pour vous faire plaisir, avec un plaisir mitigé. Alors il arrive, il s'assoit au fond, il met les coudes sur les chaises de devant, et paf, il a écouté un peu les chants, mais après, il a mis les doigts dans les oreilles. Au moment de la prédication, tac, il était content. Il n'était pas content. Et au bout d'un certain temps de prédication, une mouche commence à tourner autour de sa tête, puis pam, elle se pose sur son visage. Et elle marche sur son visage, le nez, les joues, tout ça. Et l'homme, là, il était là, et il commençait un petit peu à râler intérieurement, parce qu'il ne voulait pas enlever les doigts de l'oreille. Et à un moment donné, n'y pouvant plus avec cette mouche, il ôte une main, il fait ça, et au moment où il fait ça, le prédicateur, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh. Du coup, il a enlevé l'autre doigt, il s'est converti et est devenu prédicateur. Hein? C'est beau, hein? Et depuis, il entend tous les versets de la parole, toute la parole de Dieu. Et non seulement il entend, il la pratique, mais il la diffuse. Alléluia! Que les mouches sont belles quand elles amènent les gens à se convertir. Seigneur, envoie des mouches. Non, celle-là, elle a eu la vie sauve. Hein. Pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est cela. Mais vous savez que les deux versets que je viens de vous lire, je vais essayer d'abréger parce que je vois que le temps passe, Seigneur, pardon. Mais les deux versets que vous venez d'entendre et que vous connaissez par cœur, ça renferme les 10 commandements. Les deux. Avec ces deux versets, si vous les appliquez, vous appliquez les 10 commandements. Mais comme des fois nous sommes un peu durs d'oreille, les évangiles sont là pour nous rappeler ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Parce que je l'ai dit au début, mais je le redis, Dieu ne change pas. Il va amener tous les hommes à se repentir. Donc ceux qui croient se repentent et sont sauvés dans la mesure où ils vivent la parole de Dieu dans leur vie. Or, quelques versets. Il est dit, Matthieu 5, 44. Je ne vais pas le commenter. Hein. C'est là que vous devez répondre. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc là, il y a plusieurs actions. Hein. Ce qui veut dire, devant ceux qui se manifestent contre toi, prie-les, et il est même dit, dans un autre verset, bénis-les, au nom du Seigneur Jésus. Et là, ça veut dire comment nous nous comportons vis-à-vis des autres. Point, j'ai dit que je ne commentais pas. Éphésiens, chapitre 4, verset 32, tiré de paroles vivantes. Apprenez au contraire à être aimable. Compréhensif, c'est bien. Les uns envers les autres. Ah oui. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner. Vous êtes d'accord? Oui, mais attendez, j'ai pas fini là. Généreusement, que Dieu vous a pardonné en Christ. Aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire généreusement en fait? Eh bien, généreusement, ça veut dire abondamment. Je te pardonne aujourd'hui. Eh bien, je te pardonnerai encore demain. À moins que parmi nous, mais j'espère pas, que quelqu'un est là en train de dire, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut dire, il faut dire, je te réserve un chien de ma chienne. Non, c'est pas chrétien ça. Ça ne se dit pas entre nous et ça ne se dit pas vers ceux qui sont inconvertis. Je dois même pardonner aux non-chrétiens. Parce que si je ne pardonne pas aux non-chrétiens, comment voulez-vous que Dieu me pardonne quand moi je vais me louper? Parce que ça arrive de temps en temps. Mais alors je reviens et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et il fait. Et alors, vous savez, je ne peux pas appliquer que Dieu dise qu'il me pardonne. Amen, mais moi je dois faire la même chose avec les autres. Et je dois faire cela avec mes frères et sœurs. C'est incompréhensible que dans une église, personne ne sache se pardonner. Oui, non. Faut-il remplir l'église ou faut-il la vider? Parce qu'il y a un manque de pardon. Réfléchissez. Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Avec nos qualités et nos défauts. Donnons-lui nos défauts et ça deviendra des qualités. C'est aussi clair que ça? Non? Je ne sais pas, moi. Alors, vous savez, Jésus a toujours une réponse qui nous fortifie. Vous n'avez pas dit amen. Alors, une parole qui nous fortifie. Écoutez bien, Matthieu 18, 21, 22. Alors, Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Alors là, je vais peut-être me faire lapider, mais qui dit frère, dit sœur aussi, hein. Jusqu'à sept fois, dira Pierre, jusqu'à sept fois, il faut que je lui pardonne. Et Jésus va le regarder et va lui dire, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, hein, mais jusqu'à 70 fois, sept fois. Alors, 70 fois, sept fois, ça fait, si je ne me trompe pas, 490 fois. Oh, mais j'ai toute la vie. C'est bon, merci Seigneur. J'ai 490 fois à pardonner dans ma vie. Mais c'est faux. C'est par jour. Par jour. Vous dites, oh frère Asquet, vous exagérez là par jour. Faut pas rigoler là. Je rigole pas. Parce que la vie d'aujourd'hui, nous l'apprécions. Donc aujourd'hui, je dois pardonner. Mais si je dois pardonner 490 fois dans une vie, ça, c'est pas possible, parce que si je meurs demain, je ne pourrai pas le faire. Donc, ce qui veut dire, tu dois pardonner 490 fois par jour. Et là, je comprends que vous ne dites pas « Amen ». Mais je vais vous consoler, vous n'allez quand même pas passer toute votre journée à demander pardon. Parce qu'alors, vous auriez pas mal d'ennemis. Mais ici, vous n'avez que des amis. Et là, vous ne dites pas amen. Tiens, bizarre, ça. Moi, j'aurais cru que d'un seul coup, avec le mot ami, vous êtes ouais. Non, rien, que dalle. Et pourtant, ce qu'il faudrait faire, si c'est le cas, c'est qu'avant la Sainte-Cène, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, n'attends pas qu'il vienne, mais va vers lui. C'est ce qu'enseigne le Seigneur. Va et réconcilie-toi avec lui. Alléluia. Si tu vois un frère ou une sœur qui ne vient plus à l'église, mais qu'est-ce que tu fais si tu le vois dans la rue? Si tu le vois venir en face sur le trottoir, tu as appris qu'il y avait eu un petit problème quelque part, tu n'es pas trop sûr, mais tu as entendu que des on-dit. Au lieu de traverser pour l'éviter, va te jeter à son cou et dis-lui on t'aime et ramène-le dans la maison, ici. Ouais. Comment pensez-vous que Dieu juge si cela est un tel comportement? Tu vois ton frère, tu l'as côtoyé pendant des années peut-être. Tu as été à côté de lui dans la salle, dans la réunion, tu as chanté des cantiques, tu as prié avec lui. Maintenant tu le vois, tu le fuis. Lequel des deux doit être coupable? Tu vas me dire tous les deux? Non, toi qui sais ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas. Tu comprends ça? C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas dire je crois. La vérité, c'est je mets en pratique. Puis-je encore quelques versets? Oui? Bon. Éphésiens 5, 33, parole vivante. Quoi qu'il en soit sur le plan humain, que chaque mari... Qu'est-ce que je vais citer là? Oh là là, je vous dis, c'est fini, on ne se voit plus. Je prends la retraite avec l'Alain et... Que chaque mari parmi vous aime sa femme. Alors là, la précision, elle est bonne. Comme son propre moi. Je dois aimer ma femme comme je m'aime. Pardon. Et comme généralement, on s'aime bien. Oui, oui. On s'aime bien. On prend bien soin de sa personne. Faites comme moi, tous les matins, vous vous coiffez. On prend soin de sa personne. Mais c'est logique, c'est normal. Mais autant tu prends soin de ta personne, tu dois autant prendre soin de ta femme. Et pas la regarder, excusez le mot et pardonnez-moi, comme une esclave. Je ne sais pas, mais... Un silence est là qui pèse. Oui. Mais c'est vrai que peut-être les sœurs ne le montrent pas. Mais... Oui. Mais, comme Dieu est juste, que chaque épouse estime et respecte son mari. Le mari, c'est pas l'homme à tout faire. Vous me suivez là? Quand on se marie, c'est pour la vie. On est unis pour la vie. Et me souviens de cette phrase, entre autres, le jour où je me suis marié, que nous devrions vivre les bons et les mauvais moments ensemble, unis, jusqu'à la mort. Et le jour où mon épouse, si elle part avant moi, partira, je peux vous dire que ça sera un manque certain. Ça ne sera pas bon vent. Ça ne sera pas je vais faire ce que je veux. Maintenant, je suis seul. Non, pas du tout. Il y aura un grand vide. Parce que l'union existe. Oh, en toute honnêteté, vous connaissez les couples. Il y a de temps en temps des orages. Mais après, il y a la réconciliation. Il y a la prière. Il y a l'amour commun et l'amour de Dieu. et l'unité reste et demeure. Vous voyez ? Alors moi, entre parenthèses, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous l'avez entendu l'après-midi, mon épouse a rendu témoignage. En fait, je vais vous dire sans aucun secret, c'est 51 ans que nous sommes mariés. Toujours heureux. Avec des temps difficiles, mais qu'on a passé ensemble. Et vous en avez connu quelques-uns, frères et sœurs, et je vous en remercie encore d'avoir prié dans nos temps difficiles, car aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien, ma femme a retrouvé une bonne santé. Avec, bien sûr, qu'elle doit bien gérer, mais par la grâce de Dieu. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est à 50 ans, un an de mariage, mais nous nous sommes connus à l'âge de 13 ans. Ça fait un paquet de temps. Eh oui. Mais quand l'amour est véritable, il traverse le temps, les moments, les faciles, les difficiles, et il nous amène, avec la grâce de Dieu, puisqu'il est le maître de notre foyer, il nous amène vers la vie éternelle. Alléluia. Femme, respecte et honore ton mari. Mari, n'abuse pas de ta femme. Ne la considère pas comme une serpillière, mais aime-la comme toi-même. Parce que jusqu'à ce jour, et je terminerai après un ou deux versets, j'arrête parce qu'il y a la Sainte Cène à prendre, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se placer devant une glace en disant « Je m'aime tellement que je me frappe. » Celui-là, s'il y en a un ou une, il faut me le dire, je téléphone vite fait l'hôpital psy, trac, et il y a un fou là qui se tape tout seul et qui dit que tout va bien. Et je sens qu'il y en a un qui dit non, ou une parmi nous qui dit ben, le frère se trompe, là, il devrait aller prier d'abord. Oui. Mais on croit à l'efficacité de la prière. Amen. Alors, je ne vais pas tarder à terminer. Éphésiens 5, 33, parole vivante. Qu'il en soit sur le plan humain, c'est toujours dans la même branche. Hein. Ah non, je l'ai lu ça. Non, je n'ai pas lu. C'est à peu près le même que... Ah non, si, je l'ai lu, que dis-je. Matthieu 7, 12, parole vivante. Tout ce que vous seriez heureux, vous me suivez ? Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous. Vous aimez bien que les gens fassent quelque chose pour vous? Si vous me dites non, je ne vous croirai pas. Ah, on est bien content quand il vient faire quelque chose pour eux. Pour moi, c'est super, c'est extra. Alors, c'est pas mal, c'est bien qu'on s'aide les uns avec les autres. C'est bien aussi qu'on voie un petit peu le comportement aussi des chrétiens vis-à-vis des inconvertis. Alors, il dit, faites-le vous-même pour eux. C'est-à-dire, si tu apprécies que quelqu'un vienne faire quelque chose pour toi, mais toi, fais de même. Pour n'importe qui, que tu connais ou que tu ne connais pas. Parce que ça plaît à Dieu. Il y en a beaucoup qui exigent des autres, mais d'eux-mêmes, ils ne donnent pas grand-chose. Vous voyez ? C'est ça la vérité biblique. Il ne faut pas la contourner. Cela résume tout l'enseignement de la loi et de ses prophètes. Ça, ce petit verset résume toute la loi et tous les enseignements des prophètes.
Ouais.
Ou quand... J'ai un petit peu allongé parce que, en toute humilité, des pensées sont venues au fur et à mesure. Et je crois que c'est une grâce de Dieu. Mais quand je lisais ça, je disais, et je l'ai noté d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps. Il faut que nous marchions encore aujourd'hui de progrès en progrès. Vous savez, ce verset-là, le dernier, eh bien... Je vais vous expliquer une expérience en toute humilité. J'habitais un bâtiment où le propriétaire de mon appartement m'avait donné l'autorisation de mettre ma voiture dans un garage particulier qui était sur, enfin, c'était un petit peu sur une rue passante et avec quelques commerçants. Alors, je mettais ma voiture dans le garage le soir, fermais la porte, et le matin, quand je voulais partir, figurez-vous, malgré qu'il y avait interdit de stationner, il y avait des voitures. Alors, une fois, je l'ai dit au propriétaire, deux fois au propriétaire, il en a averti la police. Ouh là là, ça n'en finissait pas, presque tous les jours, j'avais une voiture devant, et jamais la même. Et alors, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, hein, je vous garantis que c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis, il m'est venu ce verset. Alors, c'était, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Je l'ai écrit sur un panneau. Je suis descendu, je l'ai collé sur ma porte, et à partir de ce jour-là, plus de voiture. Là, ils sont bien les gens, il faut qu'ils lisent, parce qu'à parler, ils ne comprennent pas. Mais peut-être que le Seigneur m'a donné la bonne parole pour qu'enfin je puisse sortir et rentrer comme je veux. Donc tout ça pour vous dire que si on applique la parole de Dieu, vous voyez, il y a des choses qu'on ne fait pas. La parole de Dieu nous dit qu'il faut respecter la loi du pays. Même si elle ne nous plaît pas trop, notamment au niveau du code de la route, ça ne nous plaît pas, mais c'est la loi. Ouais. Aussi bien pour les voitures, sur les routes, que pour les parkings. Parking. Il y a des places réservées pour les handicapés, il faut les respecter. Hein? Il y a des places normales, il faut les occuper. Oui, mais on fait le tour. Eh bien, tu pries le Seigneur pour qu'il te fasse une place. Ça va vous faire sourire, hein? Mais combien de fois j'ai prié le Seigneur pour que j'aie une place? 2 minutes, 3 minutes après, j'avais une place. Ce matin, j'ai dit, ouh, avec le monde et la course qui est là, je ne vais pas avoir de place. Alors déjà, j'ai dit, il faut que je contourne le piège. Quand je suis arrivé, je me suis dit, oh, je suis déjà là. J'ai dit, bon, il faut trouver la place. Seigneur, la place, je fais un petit tour, pop, une place. Merci Seigneur. Non? Vous savez, on n'est pas du même monde ou quoi, là, parce que... Avant, quand il n'y avait pas le GPS, j'étais invité à faire des réunions ailleurs, mais je ne savais pas où c'était. Ça remonte loin, très loin. Après, je conclue, je vous le dis. Mais, j'ai dit, Seigneur, où aller, l'église? J'ai pas de GPS, j'ai rien, j'ai pas de plan. Seigneur, qu'est-ce que je fais? On m'avait dit à peu près où c'était. Et un jour, puis d'un seul coup, sur le trottoir, je vois, c'était du temps où les frères avaient les sacoches. Avec mon épouse, j'ai dit, oh, tu sais ce qu'on va faire? On va les suivre. Eh bien, on est arrivé à la salle. Une autre fois, c'était derrière. Il y avait un verset biblique. Je dis, oh, ça, c'est des chrétiens. On les suit. Pop, j'arrive à la salle. Maintenant, il faut le GPS. Le GPS, vous avez confiance, moi, une fois, le GPS, je me suis retrouvé dans une prairie. Je dis, c'est ça? Ah oui, la dernière fois, c'est pas si loin que ça, je viens faire une visite là, à Dameras, là, c'est à Dameras dans le coin, enfin du côté de Chambéry. Je suis exactement ce qu'il me dit et j'arrive devant l'usine à café. Il me dit, vous êtes arrivé. Ah ben, je l'ai pris le café. Non, suivez le Seigneur, il vous amènera au ciel, lui. Écoutez sa parole, vivez sa parole. Ne dites pas je connais, il faut dire je mets en pratique. Vous voulez aller au ciel, c'est par là, parce que là j'ai coupé. Hein. Mais il y a tellement de versets qui nous montrent le chemin d'aller au ciel. Alors ne disons pas c'est dur, parce que le Seigneur est avec nous. Il est tous les jours avec nous, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit et il nous conduit dans la vérité. Alléluia. À condition que nous voulions l'appliquer. Amen. Voilà, j'invite les frères pour la Sainte-Seine. Alléluia. Merci.